sinon c'est pas grave.
Donc moi je vais vous parler du dossier titré Analyse des richesses. C'est un dossier qui correspond assez précisément à la partie économique, disons, de l'émeu les choses, sur l'analyse des richesses, sur Smith, sur Ricardo. L'intérêt de ce dossier, c'est que vraisemblablement, au moment où Foucault prépare son ouvrage, il n'a pas une connaissance très développée de l'histoire de l'économie. Donc, en lisant ce dossier, on peut voir comment il bâtit une connaissance sur un terrain qui lui était étranger. Alors, trois questions permettent de baliser un champ d'études concernant d'un côté le travail de l'intellectuel, et dans ce cas spécifique de l'archéologue, et de l'autre, la place de la lecture foucauldienne de la naissance de l'économie moderne par rapport à l'histoire des sciences économiques. Alors, d'abord, que nous apprend ce dossier sur les thèses économiques de l'émeu et les choses? Ces thèses étaient-elles suffisamment documentées et méthodologiquement admissibles, ou relevaient-elles, comme on l'a souvent reproché à Foucault, d'une idéologie structuraliste consistant à nier le développement historique des savoirs pour ne privilégier que les ruptures et les plages synchroniques? Deuxièmement, que nous révèle-t-elle une enquête conduite sur ce dossier avec le logiciel Archivist Toolkit que Jean-François et Samantha vous ont montré et dont je me suis servi, en particulier pour obtenir une vision synoptique sur les sujets, sur les auteurs du dossier, pour créer des correspondances entre des fiches physiquement éloignées du dossier et pour établir des relations systématiques entre les dossiers et les ouvrages publiés. Mon hypothèse est qu'à travers cet outil, on pourrait reconstruire un certain ordre dans lequel Foucault conduit sa recherche, ordre qui n'apparaît pas dans l'ordre d'exposition du livre. La troisième question est foucauldienne. Quels sont les effets des savoirs d'une telle lecture effectuée par les moyens informatiques sur la connaissance du travail archéologique? Dans les cas spécifiques de Les mots et les choses, il s'agit de comprendre si cette lecture permet de jeter un regard inédit sur le livre même et de lui donner une nouvelle place non seulement dans l'histoire des débats philosophiques, mais aussi dans l'histoire épistémologique de l'économie. Alors, un des éléments les plus surprenants du dossier est le grand nombre de fiches tirées de la littérature secondaire, alors que pour les autres dossiers, cette littérature est presque inexistante ou limitée aux introductions des éditeurs. Donc, 40 fiches, correspondant à environ un quart de la bibliographie totale, sont issues des classiques de l'histoire des théories économiques. En particulier, il faut citer Gonard, Pierre Arsin, Monroe et Georges Velleres. Donc, à l'exception de Monroe, que Foucault utilise constamment tout au long de son ouvrage, il s'agit des classiques bien connus par les historiens de l'économie, où Foucault a puisé une bonne partie des renseignements sur les soi-disant auteurs mineurs. Alors, je dis auteurs mineurs parce que, au fond, ce sont des auteurs mineurs pour les lecteurs, normalement, des mots et les choses, mais dans une optique d'histoire de l'économie, ils ne sont pas du tout des auteurs mineurs. L'étude systématique de ces fiches permet en effet de voir qu'elles ne sont pas établies de la même manière que les fiches tirées des sources, de la littérature primaire. Dans ce dernier cas, dans les sources, Foucault recopie soigneusement des passages entiers, alors qu'il préfère résumer lorsqu'il s'agit de littérature secondaire. Est-ce que vous me montrez une fiche? Gonard, par exemple. Voilà, Gonard. Vous ne voyez pas justement des guillemets parce que ça, c'est tout un résumé de Gonard. Ce n'est pas une citation. Alors, en revanche, il copie mot à mot sur ses fiches des citations des sources qu'il a trouvées dans les livres des commentateurs pour ensuite citer directement les sources primaires dans les livres. Ainsi, puisque les historiens de l'économie ne sont presque pas cités dans les livres, les commentateurs ont généralement supposé que Foucault ne lisait que les sources. Ces absences relèvent peut-être une volonté de cacher une information de ses commentaires, mais aussi surtout un rapport spécifique que Foucault entretient avec la littérature secondaire. Et je dirais même plutôt des trois rapports spécifiques. Considérons par exemple les citations qui sont contenues dans les sous-chapitres sur le mercantilisme. On peut facilement retrouver toutes ces citations, qui sont prises de Scipion de Grammont, de Montanari, de Hobbes, dans les livres d'Arsin. Et des autres, par exemple, comme celle de Horneck ou de Moon, on peut les trouver dans les livres de Monroe. Donc, si on se tient aux fiches, Il paraît évident que pour l'écriture de ce chapitre sur le mercantilisme, Foucault s'est basé presque exclusivement sur la littérature secondaire. Et en effet, l'essence de ce propos n'est pas fondamentalement en conflit avec les histoires de la pensée économique plus récentes. Le mercantilisme ne fonde plus le rapport entre richesse et monnaie sur la valeur intrinsèque des métaux précieux, mais sur la circulation et l'échange. Monroe avait déjà souligné les analogies entre la découverte de la circulation sanguine par Harvey et la circulation économique chez Horneck et Hobbes. Gonard soutient que l'essentiel de la pensée mercantiliste n'est pas le métallisme, c'est-à-dire la confusion entre les stocks monétaires et la richesse, mais la théorie de la monnaie signe, que nous savons est très importante pour Foucault. Donc on pourrait dire que, dans ce premier cas, Foucault se sert de la littérature secondaire pour reparcourir une vaste plage du savoir économique afin de réinscrire les observations des historiens à l'intérieur du paradigme et du passage de l'ordre de la Renaissance à l'épistème classique. Son interprétation ne contredit pas les interprétations des historiennes, elle relève plutôt de la reprise de celle-ci à l'intérieur d'une vision d'ensemble donnée par l'archéologue. Alors, le cas du mercantilisme n'est pas isolé, parce que si l'on prend les sous-chapitres sur la formation de la valeur, on s'aperçoit que la presque totalité des citations de Physiocrate, Quesnay, Mirabeau, Dupont de Nemours, sont tirées de l'ouvrage classique de Villerès sur l'histoire de la physiocratie. Cependant, ici, l'interprétation de Foucault s'inscrit à contre-courant par rapport à l'interprétation dominante en histoire de la pensée économique. Car les historiens ont fait de Quesnay et ses disciples, tantôt les découvreurs d'une correspondance entre l'ordre naturel et l'ordre social, qui fonderait finalement la scientificité de l'économie politique, tantôt les précurseurs du capitalisme moderne. Alors que pour Foucault, les physiocrates s'inscrivent parfaitement dans l'épistémé classique, dans la mesure où ils analysent la richesse à partir du système des échanges. Autrement dit, Foucault ne reprend pas les thèses de Villerès à l'intérieur de son système théorique, mais il se limite à utiliser son ouvrage comme une sorte de réservoir des citations sur lesquelles il appuie ensuite sa thèse. Il y a enfin un troisième usage de la littérature secondaire plus ordinaire. Dans la plupart des cas, Foucault utilise les textes des historiens de l'économie pour construire un savoir de fond, identifier certaines sources qu'il lira par la suite. Alors, c'est le cas des fiches sur les doctrines monétaires au Moyen-Âge. C'est le cas aussi de Gonard, Arsan, Moreau, qui donne à Foucault l'indication pour aller chercher les auteurs qu'il utilise dans les chapitres Monnaie et Prix, mais qui lit vraiment Copernic, D'Avanzati, l'anonyme de Compendieux, Baudin, etc. Donc chez Monroe, par exemple, il trouve des éclaircissements qui le convainquent à lire les textes de Petit, de Locke, Nicolas Barbon, Cantillon. Donc, parfois, il utilise même des livres d'histoire économique pour reconstruire les contextes historiques de la formation des théories monétaires, comme Labrousse ou Marion. Ensemble, la littérature secondaire, dans ce troisième cas, est un appui qui lui permet d'avancer plus rapidement et plus sûrement dans la lecture des sources. Par ailleurs, à partir du milieu du dossier, on remarque une nette raréfication des fiches tirées de la littérature secondaire. C'est comme si, parvenu au XVIIIe siècle, et ayant désormais constitué un discret bagage sur l'histoire des savoirs économiques, Foucault pouvait finalement s'autoriser à lire uniquement les sources. Alors, et les sources, naturellement, il les lit, et il les lit dans les moments où il établit ses thèses plus originales, évidemment. Donc il lit directement, il établit un grand nombre de sources sur Smith, sur les soi-disant néo-mercantilistes, c'est-à-dire Mélon, Doutot, Cantillon. Il lit le commerce et le gouvernement de Condillac. Il lit profondément les œuvres de Turgot et Grasselin aussi. Donc c'est à partir de ces lectures, justement, je disais, que Foucault élabore les parties théoriquement plus puissantes et originelles de son livre, le sous-chapitre sur la gage et les prix, sur la fonction représentative du signe monétaire dans l'épistémé classique, le sous-chapitre sur l'utilité montrant les réseaux archéologiques sous-tendant les théories de la valeur au XVIIIe siècle, ou encore les parties montrant les premiers décrochages d'Adam Smith par rapport à l'analyse de richesse et la naissance de l'économie politique avec Ricardo. Il y a enfin une série d'auteurs dont Foucault a consulté les ouvrages, mais qui ne sont pas ou presque pas cité dans les mots et les choses. Alors, tout un ensemble d'éminaires, Jean Le Poitier, Abbot de Berzingen, qui sont en fiches, qui sont normalement rassemblées vers la fin du dossier, comme si Foucault les avait écartées pendant l'écriture. Mais cela ne signifie pas que certains auteurs absents soient moins importants. Je pense notamment des studios de Tracy, à Germain Garnier, et surtout à Jean-Baptiste Sailly, sur lesquels Foucault établit vraiment un grand nombre de fiches. Donc, j'essaierai de répondre par la suite à la question de ce que Foucault a fait de ses lectures. Concernant l'ordre du dossier, nous ne savons pas si l'ordre des fiches dans les dossiers correspond à l'ordre de lecture des livres. En revanche, un ordre apparaît sans aucun équivoque possible. Les dossiers sont des faits organisés par blocs, mercantilistes, physiocrates, utilitaristes, dont la succession reflète fidèlement l'ordre d'exposition du livre, qui est en même temps un ordre chronologique allant de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe. Il faut toutefois signaler une exception remarquable, la lecture de Smith, qui occupe dans les livres une position intermédiaire entre l'analyse des richesses et Ricardo, apparaît précisément au début du dossier, dans les 15 premières fiches. Alors nous pourrions penser que cet emplacement dérive du fait que Foucault a écrit en dernier la partie sur Smith. Il aurait alors déplacé les fiches sur Smith dès la fin vers le début du dossier. En réalité, à la lecture des fiches, on se rend compte que Foucault découvre ici des éléments qu'il aurait déjà dû intégrer en lisant les auteurs précédents, notamment Cantillon, Turgot. En particulier, il se concentre sur les éléments de la doctrine smithienne, sur les éléments basiques que Marx considérait comme les marques d'une approche scientifique. La théorie de la valeur travail, la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange, la distinction entre prix réel, prix nominal des marchandises, encore entre prix naturel et prix des marchés. Alors, la lecture de Smith apparaît moins comme le point d'arrivée de la recherche que comme la porte d'entrée dans la matière économique, mais aussi comme le repère qui permet à Foucault de s'attacher de façon critique à une tradition d'histoire de la pensée économique qui a fait de Smith le fondateur de l'économie politique moderne et les premiers représentants de l'école classique, comprenant Ricardo et Marx même. Alors que pour Foucault, on le sait, Smith reste enfermé dans l'analyse des richesses, et c'est Ricardo qui inaugure cette disposition épistémologique moderne représentée par l'économie politique et centrée sur la production, le capital et le travail. L'argumentation foucauldienne concerne principalement le rôle de la valeur travail et elle se base sur une aporie classique qui a fait l'objet des critiques de Ricardo. D'un côté, en effet, chez Smith, la valeur d'une marchandise dépend de la quantité de travail nécessaire pour la produire, de l'autre, de la quantité de travail contre laquelle cette marchandise s'échange. Mais cette contradiction, pour Foucault, reflète l'entrecroisement de deux instances dont découle en même temps la position liminaire de Smith au seuil entre l'épistémé classique et les modernes, une théorie du travail qui pointe déjà vers l'épistémé moderne et une théorie de l'échange pour laquelle le travail reste la mesure réelle de la valeur échangeable de toutes les marchandises. Donc, c'est l'échange qui augmente et diminue les valeurs. Et dans ces cas, Smith reste un homme du XVIIIe siècle. C'est probablement là, dans ses premières fiches, que Foucault se rend compte que même la division du travail chez Smith n'a qu'un effet de l'échange et qu'il ne concerne pas la nature du travail en lui-même. C'est pour cette raison qu'à ce point, Foucault lit la deuxième partie, le deuxième livre de Richesse des Nations, qui porte plus spécifiquement sur la consommation, la circulation, la formation du capital fixe et du capital variable. C'est à partir des trois fiches sur les papiers monnaie qu'apparaît clairement que la monnaie, chez Smith, représente les marchandises, le travail, de l'argent, dans le cas de la papier monnaie. Alors, cette fonction représentative va décrocher de l'utilité, mais non pas de la détermination de la valeur, car la monnaie soutient la circulation des marchandises, les commerces et donc la formation du capital. Dans un système où la valeur dérive de l'échange, la monnaie peut ainsi apparaître en même temps comme représentation de la masse des biens et comme un élément fondamental de la formation de la valeur. C'est la raison pour laquelle Foucault assemble ensuite une bibliographie de 67 titres sur la théorie de la monnaie. À partir de ce moment, les doctrines monétaires deviennent un observatoire privilégié pour l'archéologie, une sorte de test permanent permettant de détecter les transformations archéologiques des savoirs économiques depuis le Moyen Âge. Alors, on sait que cette question, comment on est passé de la valeur signe à la valeur production ou de la monnaie au travail, commande entièrement l'archéologie des savoirs économiques contenus dans les mots les choses. En somme, il est intéressant de voir que, même dans son laboratoire, Foucault part de la décision théorique de ne pas considérer Smith comme un fondateur, mais comme l'analyseur d'une transformation épistémologique. C'est cette décision qui permet de définir la transformation et de poser la question du passage de l'analyse de richesse à l'économie politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le débat entre Smith et Ricardo se trouve au début du dossier et non pas à la fin. Au début de sa recherche, l'archéologue n'a pas une thèse, mais une question. Cette question lui permet de remonter jusqu'au seuil de formation de l'épistémé classique qui représente le point de départ pour l'enquête archéologique des savoirs économiques. En partant de la bourdure du temple qui entoure notre présent, écrira Foucault dans l'archéologie du savoir, l'archéologue formule une question lui permettant d'étudier les discours qui ont cessé d'être les nôtres pour revenir ensuite vers notre présent. De ce point de vue, la succession des fiches dans les dossiers préparatoires révèle bien un certain ordre qui est l'ordre de la recherche archéologique. Ce parcours circulaire permet ainsi de saisir la manière dont Foucault esquive le risque d'une histoire rétrospective des sciences et révèle la parenté de l'archéologie, plus qu'avec un structuralisme des manières, avec l'histoire épistémologique de Canguilhem. Comme l'historien des sciences, l'archéologue procède de l'actuel vers ses commencements. Ensuite, il substitue à l'histoire d'un progrès continu vers la vérité l'analyse des conditions de possibilité et des transformations du savoir économique. Pour reprendre une formule canguilhémienne, il cherche à substituer à l'histoire des sciences les sciences selon leur histoire, donc de faire apparaître un univers qui la rend possible, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, de techniques, de concepts qui sont formulés pour répondre à des problèmes actuels. Ainsi, l'archéologue se saisit des apories des contradictions que l'histoire rétrospective attribue aux précurseurs comme des instruments théoriques lui permettant de révéler un certain contexte de formation des théories. Alors, la question du contexte concerne aussi ma dernière remarque sur les auteurs absentes, comme je les appelais, c'est-à-dire les auteurs présents dans les dossiers, mais non pas dans les livres. Le cas paradigmatique est celui de Saï, car Foucault établit 9 fiches sur son traité d'économie politique pour ensuite les citer seulement 2 fois, de façon très vague. En revanche, il établit seulement 3 fiches sur Ricardo pour lui consacrer 10 pages dans les mots et les choses. La pauvreté de la documentation sur Ricardo n'est sans doute pas à l'auteur donc, de ses longs développements. Mais on s'est trompé de penser que cette manque de documentation invalide toute l'analyse, car, comme Foucault l'a soutenu à plusieurs reprises, Ricardo est seulement la marque d'une transformation épistémologique plus large et plus profonde. En effet, Foucault ne retrouve pas toutes les nouvelles empiricités de l'économie politique seulement chez Ricardo, mais aussi chez les idéologues, notamment Destoux de Tracy, Germain Garnier et surtout Saï. Les fiches tirées de Saï montrent en particulier assez explicitement le renversement de tous les présupposés de l'analyse des richesses. L'échange ne produit pas de richesses, une mesure absolue de la valeur n'existe pas, la monnaie n'est ni mesure ni signe, mais une marchandise comme les autres, sujette aux mêmes variations des valeurs. C'est encore chez Saï qu'on peut dire que l'augmentation des jouissances et des richesses n'est pas un don de la nature, comme le pensaient les physiocrates, mais une conquête faite par l'intelligence de l'homme sous les forces productrices et gratuites de la nature, je cite. Donc il apparaît là l'idée d'une nature avare à laquelle l'homme doit soustraire la richesse par le travail, préfiguration du creux anthropologique où se loge l'économie politique de Ricardo. Donc l'absence de Saï et des autres, que Foucault ne cite pas, montrent bien que le passage de l'analyse des richesses à l'économie politique a été long et compliqué. De ce point de vue, il n'y a pas seulement une, mais plusieurs petits déplacements, des micro-ruptures, des décrochages insensibles entre l'analyse des richesses et l'économie politique que Foucault ramène tous sous le nom de Ricardo. L'incommensurabilité entre les différentes épistémées, donc, n'exclut pas les transformations graduelles. En somme, la place de Saï à la fin du dossier montre les périples accomplis par l'archéologue qui s'arrête à nouveau sous les marges de la modernité, Mais cette place nous dit aussi que l'opposition entre continuité et discontinuité historique est peut-être une fausse question pour l'archéologue. La coupure épistémologique n'existait pas vraiment dans l'espace du savoir, ou du moins elle n'est pas en rupture nette par rapport au passé, elle n'est pas un bond décisif vers une rationalité plus vraie. Pour l'archéologue, la coupure est plutôt un artifice épistémologique. En fictionnant des ruptures là où l'histoire des sciences postule des continuités et des enchaînements temporels, il peut mettre en lumière une autre histoire de l'économie. Il ne faudrait donc pas demander à l'archéologie d'expliquer les raisons des passages d'un épistème à l'autre, mais de révéler des discontinuités autres et des continuités possibles. Ce dossier, donc, est important pour plusieurs raisons. Il dit que l'archéologie n'est pas une théorie de l'histoire, ni une philosophie, ni une sorte d'idéologie, mais surtout une démarche expérimentale s'incarnant dans une façon précise de travailler les matériels historiques. Partir des traces matérielles du travail, des gestes concrets de l'archéologue dans la construction de son archive, permet à la fois de pénétrer la conceptualité foucauldienne, d'éclairer son sens, de comprendre à quelles conditions ce travail est encore utile pour nous aujourd'hui. De ce point de vue, il me semble que le grand débat sur le structuralisme de Foucault, qui a suivi la publication du livre, a eu comme premier effet de dissimuler la forme du travail archéologique. On insistait à l'époque sur les grandes épistémées, sur les ruptures spectaculaires. Aujourd'hui, nous commençons plutôt à voir que l'instrument archéologique était un outil de désynchronisation adapté à révéler les microfractures, les transformations silencieuses, les émergences invisibles. À partir de ces matériaux de travail, donc, on pourrait en somme montrer que la généalogie aussi se situe moins en opposition que dans les prolongements de l'archéologie. Merci.
Je laisse ma place à Frédéric pour qu'il anime le débat.